avec le soutien de Sabam for Culture.
Bah bonjour cher Dick, nous sommes ici à la galerie Flux. C'est le finissage, même si j'aime pas trop ce mot-là, finissage, c'est pas très beau, mais le finissage de l'exposition Le Grand Boom, qui raconte la Wallonie de 2132 à travers une exposition de dessins et de peintures, de collages, etc. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, cher Dick ? Quand on s'est vu, tu m'as dit « j'ai un truc pour toi ».
Alors, pas tout à fait. À vrai dire, je pense que quand on s'est vu, tu m'as dit « j'ai un truc pour toi ».
Ah oui, c'est moi, non.
Voilà. Tu m'as dit « viens, on va discuter à la galerie de cinéma, du cinéma de 2132, du cinéma qui pourrait être celui de 2132. On va dire des choses. » Et puis, j'ai dit « oui, évidemment ». J'étais perdu moi-même entre les multivers, je ne savais pas ce que tu voulais exactement. Et tu m'as dit simplement, on allait évoquer quelques thèmes en fait. Hein. On va essayer de recouper dans le fond les motifs principaux qui sont dans l'exposition, qui tournent en tout cas autour de cet imaginaire cinématographique, et voir un petit peu en effet quels sont les liens qu'on peut tisser entre cette Wallonie de ce multivers de 2132 et peut-être des choses que nous connaissons mieux ici.
C'est ça, je ne vais pas raconter à nouveau l'histoire. Donc généralement, je fais une visite guidée pour expliquer l'exposition. Je renvoie les auditeurs au précédent podcast avec Philippe Marchewski où on racontait ce monde de 2132. Donc ici, on va plutôt se pencher sur deux personnages pour commencer, qui ont un impact important dans le monde de 2132. C'est Freud et Cobra. Mmh. Alors moi, je pense que Freud, on pourra en parler quand même un peu longuement, puisque je pense que Freud, il y a quand même eu des films et des œuvres au cinéma. En tout cas, la psychanalyse a dû influencer pas mal de choses, j'imagine.
Oui, Freud, il nous accueille dans ton exposition quand on arrive.
Ouais, il est là. Il est là dans cette pièce.
Voilà, il est au-dessus d'une cheminée, comme tout bon psychanalyste doit l'être, dans le fond. Freud, je rappelle, il naît en 1856, il meurt en 1939. On situe un petit peu. Et ce qui est assez intéressant quand même quand on veut réfléchir un peu sur le cinéma, c'est de se dire, tiens, Freud et le cinéma, c'est quoi? Et si on se renseigne un peu sur Freud, on s'aperçoit que le cinéma, ça n'intéresse absolument pas. Et ça, c'est quand même une chose un peu étonnante et un peu stupéfiante même, puisque Freud, lui, aimait beaucoup les images. Enfin, on imagine qu'il aurait beaucoup à dire sur cette exposition s'il se promenait d'image en image, et il n'est pas certain qu'il te laisse sortir ensuite, mais ça c'est autre chose. Mais il est fasciné par les images, de l'enfance jusqu'à son parcours de chercheur, jusqu'au professeur, il y revient souvent. L'interprétation des rêves est elle-même fondée finalement sur des questions d'image. Lui-même dit qu'il a été extrêmement marqué par les illustrations de la Bible de Philipson. Il faisait des cauchemars incroyables avec sa maman qui était en espèce d'oiseau préhistorique, et en fait c'était
les oiseaux, donc
le relief funéraire égyptien qui l'avait mélangé comme ça avec des images de sa mère. Et sans cesse il a essayé de, finalement en faisant sa pratique de psychanalyse, faire raconter des images aux gens qu'il rencontrait, aux hystériques notamment qu'il essayait de guérir. Lui-même en colloque, on retrouvait des choses, il présentait des dessins humoristiques, disait-il, qui représentaient des rêves et frappaient par leur justesse et leur transparence psychologique. Là, je cite carrément une séance du 17 mai 1911,
ah oui,
pour montrer à quel point j'ai travaillé pour ce podcast. Donc bref, il était très sensible à l'image, très sensible même au défilement des images. Il disait même à ses patients, il disait même aux autres psychanalystes qu'il formait, qu'il fallait finalement quelque part imaginer un dispositif ferroviaire pratiquement. C'est-à-dire, on s'entraîne dans le train, vous regardez dehors, vous voyez le paysage qui défile. Eh bien, une psychanalyse, c'est aussi ça, c'est faire défiler les images, les faire remonter à la surface.
Fast and Furious, les quoi.
Il était plus... Ouais, les hystériques étaient peut-être Fast and Furious. Et donc... Il y avait vraiment cette idée du défilement d'image, et pourtant, chaque fois qu'on lui a proposé le cinéma, qu'il s'en occupe, qu'il l'intègre à ses dispositifs thérapeutiques, il a toujours refusé ça.
Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas ?
Alors, c'était la question que beaucoup se posent. A priori, visiblement, c'est en fait tout simplement contraire à la pratique même qu'il imagine la psychanalyse, qui est plutôt d'avoir non pas des images face à soi, mais des images réminiscentes, des images qu'on va chercher loin, des images finalement qui sont des arrêts sur image. Les images de traumatisme, c'est un peu des arrêts sur image. Et dans le fond, il n'était pas tout à fait à l'aise avec le cinéma, il était beaucoup plus à l'aise avec la parole, même si on sait que lui, par ailleurs, en tant qu'individu, adorait le cinéma. On a des témoignages comme quoi on le surprenait à la sortie des salles qui montraient des westerns, notamment, ce qui va nous approcher tout doucement de Cobra et de la suite, mais il aimait le western, on le sait. Il aimait aussi les films policiers. Donc, la manière dont utilise Freud ici dans cette année du futur n'est peut-être pas tout à fait lointaine de ce qu'il a été. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si lui, en tout cas, ne s'intéresse pas spécialement au cinéma, je veux dire, d'un point de vue thérapeutique, le cinéma s'est beaucoup intéressé à lui. Et il est devenu rapidement une espèce d'icône. Hein, vous savez, vous connaissez tous les photos de Freud. Il est tellement sévère sur ses photos, on a l'impression qu'il a deviné nos pulsions les plus secrètes, rien que d'avoir cette image qui nous est confrontée. Et il est devenu évidemment un sujet cinématographique qui apparaît dans de nombreux films. Alors j'en ai retenu trois pour toi et pour nos auditeurs. Y a un seul, à ma connaissance, il y a un seul biopic de Freud qui est en fait le film de John Huston qui date de 1962, qui s'appelle Freud, Passion secrète.
Ah, je ne le connais pas celui-là.
Ouais. Et c'est Montgomery Clift qui joue le rôle, au grand désespoir en fait, de John Huston, puisque Montgomery Clift était assez malade sur le tournage. Il avait la thyroïde, le problème de thyroïde, il souffrait de la cataracte, il ne voyait rien.
Radioactivité peut-être.
Il se prenait les meubles, il était peut-être déjà en effet touché par les explosions du grand boom. Mais Huston après s'était dit que finalement il faisait un Freud tout à fait acceptable, même s'il avait beaucoup maudit sur le tournage. Et le film est assez intéressant parce qu'on voit vraiment le jeune médecin, le jeune Freud qui s'intéresse à l'hypnose, au professeur Charcot, qui se rend à Paris pour le rencontrer, qui revient à Vienne, qui fait ses propres recherches malgré l'opposition de son entourage et qui lutte comme ça pour pouvoir imposer finalement ses nouveaux traitements de ses troubles. Donc voilà, ça c'est le film un petit peu canonique, si j'ai envie de dire, de Freud. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est très différent, qui est un Sherlock Holmes. C'est Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, où l'intrigue est formidable. Elle est tirée d'un roman que les amateurs de Sherlock Holmes aiment beaucoup, qui est La solution à 7%, qui n'est pas écrit par Conan Doyle, mais bien par Nicolas Meyer en 75. Le film est de 76, réalisé par Herbert Ross, mais peu importe. Donc ce n'est pas le canon de Sherlock Holmes, c'est une espèce de variation comme on a eu beaucoup. L'histoire se déroule à 1891 et Sherlock Holmes est complètement drogué, en fait. Il est complètement soumis à la cocaïne. Et Dr. Watson le retrouve, essaie de le guérir, le soigner. Et finalement, se dit qu'il faut l'emmener à un endroit pour pouvoir s'occuper de lui et qu'il puisse suivre une cure de désintoxication. Et il l'emmène chez Freud. C'est là qu'apparaît
Freud, cocaïnomane.
Freud, ouais, et qui. Et alors là, c'est drôle parce qu'il y a différentes péripéties qui fait que finalement, Watson, Sherlock Holmes et Freud lui-même vont essayer d'aller sauver une ancienne patiente de Freud qu'un sultan a décidé d'emmener en Turquie à travers le crime d'Orient Express, à travers l'Orient Express, qui rappelle évidemment les idées du crime d'Orient Express, bien sûr. L'acteur qui joue Freud ici, c'est Alan Arkin. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas. On le connaît bien dans un registre encore contemporain, parce que c'est un homme assez âgé maintenant, mais bon, on le voit en effet dans par exemple, Little Miss Sunshine, Argos, où il est encore un des très très bons acteurs de la méthode Kominsky, où il est le compère de Michael Douglas. Il fait un très très bon Freud, assez drôle, et donc on a une autre version ici d'un Freud.
Friendly
Freud. Voilà. C'est un adventure man. Et puis enfin, un troisième film. J'ai choisi tout spécialement pour toi, parce que je sais que tu l'aimes. C'est le film David Cronenberg, qui est adapté de cette pièce anglaise, une méthode dangereuse, une dangerous method, et qui revient en fait sur les relations assez complexes entre Sigmund Freud, qui est joué ici par Viggo Mortensen, et par Gustav Jung, qui est joué ici par Michael Fassbender. Et en fait, il y a une sorte de triangle, pas tout à fait amoureux, mais quand même assez compliqué, puisqu'ils vont s'occuper tous les deux d'une jeune femme qui est un personnage historique important pour la psychanalyse, qui est cette Sabina Spielrein, qui est jouée par Keira Knightley ici. Elle est la patiente de Jung, elle devient sa maîtresse. On consulte Freud, tout se complique beaucoup, il y a beaucoup de pulsions,
beaucoup de fessées,
beaucoup de choses qui échappent un petit peu à la raison, et on se demande un peu pourquoi. Le film est extrêmement déstabilisant, surtout pour un Cronenberg à vrai dire, puisque on se dit un cinéaste qui est extrêmement visuel, un cinéaste qui est dans la chair.
Il n'y a pas de bubon, tu veux dire.
Quoi ?
Il n'y a pas de bubon qui...
Non, mais même il n'y a pas de... Il y a très peu de sexe, finalement, en fait. Il y a très peu de sensualité. Or, il prend trois acteurs qui sont des acteurs vraiment glamour par excellence. Et en fait, il va les faire surtout parler. Et donc, c'est un des premiers, je pense, grands films bavards aussi de Cronenberg. Il y en aura d'autres comme Cosmopolis, etc. Mais c'est assez drôle. Ce film, c'est presque une espèce de le contre-pied à ce qu'on pouvait imaginer et attendre de Cronenberg dans ce film, qui fait que l'intellect prime vraiment sur les corps, alors que c'est souvent un petit peu différent chez le cinéaste, évidemment. Et ici, on a vraiment trois corps d'acteurs qui sont extrêmement corsetés. Voilà, donc ça, c'est peut-être les trois films. Hein, que
le top 3 de Freud.
C'est le top 3. Après, évidemment, l'influence de Freud sur le cinéma, elle est gigantesque. C'est toute la psychanalyse. Il faut savoir que le premier film qui parlerait vraiment de psychanalyse, c'est un film de Pabst. On est en 1926, hein, un film muet, donc. Les mystères d'une âme, et qui est fait avec deux assistants de Freud. Freud n'a pas voulu participer, mais ses deux assistants, qui
eux voulaient bien,
médecins,
c'est étonnant.
Voilà, sont tout à fait entrés dans le processus, et il y a une série de scènes qui essaient de montrer un petit peu comment fonctionnent même les rêves, les cauchemars. Il y a une séquence sur l'interprétation des rêves. Il y a un beau panneau introductif que j'ai retrouvé, qui dit qu'en chaque être sommeille des désirs et des passions que la conscience ignore. Aux heures sombres de conflits psychiques, ces pulsions inconscientes tentent de s'imposer. Pareille lutte donne naissance à d'énigmatiques troubles que la psychanalyse s'attache à élucider et à guérir. Entre les mains des médecins dotés d'une formation psychanalytique, les théories du professeur Sigmund Freud constituent un important progrès en vue du traitement de pareils troubles psychiques. Et le panneau suivant dit que c'est tiré de cas vrais. Et donc, on a vraiment une espèce de film de propagande, en quelque sorte, hein, pour la psychanalyse. Par contre, on va très vite s'en moquer à Hollywood, notamment Max Sendrich, qui est un auteur de comédie musicale, avec Fred Astaire et Ginger Rogers, va mettre Fred Astaire dans le rôle d'un psychanalyste qui essaye de draguer Ginger Rogers en l'hypnotisant, sans que ça marche tout à fait bien. C'est une première parodie. Et puis on va revoir alors beaucoup de thèmes psychanalytiques et de personnages de psychanalystes dans les films fantastiques des années 40, notamment chez Jacques Tourneur, dans La Féline, dans Angoisse. On retrouvera ça évidemment aussi dans l'adaptation de Tennessee Williams, hein, très marquée par la psychanalyse. Comme Soudain l'été dernier, on retrouve encore Montgomery Clift qui joue un psychanalyste, hein, le film de Mankiewicz de 59. Et puis certains vont faire de la psychanalyse un sujet de fond et d'humour perpétuel, hein, comme Woody Allen bien sûr et quelques autres. Et puis évidemment, s'il y a un grand cinéaste de la psychanalyse à Hollywood, c'est bien sûr Alfred Hitchcock, dont on s'est beaucoup moqué, mais il faut quand même peut-être rappeler que l'école américaine de psychanalyse, elle a profité très rapidement des enseignements de Freud, qu'elle a essayé de les vulgariser très rapidement, que c'était très très en vogue auprès des intellectuels, et que assez vite, quantité de scénaristes, de producteurs hollywoodiens se sont dit que c'était un très bon sujet. Hitchcock va réaliser non pas un film sur la psychanalyse, pardon, mais un grand film de psychanalyse, hein, c'est le fameux Spellbound, c'est donc en français Dans la maison de Dr. Edwards, génie de la traduction, avec Ingrid Bergman et Gregory Peck, où on va vraiment suivre un traumatisme inconscient et essayer de le faire affleurer pour avoir une révélation. Mais dans le fond, chez Hitchcock, tous les films sont très psychanalytiques, hein, Rebecca, Marnie, Frenzy, Les oiseaux, La mort aux trousses, Vertigo, Psycho, etc., etc. Et puis voilà, on a une grande histoire hollywoodienne comme ça qui va jusque les derniers films qu'on peut voir, hein, le dernier Guillermo del Toro sur Nightmare Alley, mais un personnage de psychanalyste maléfique en scène. Et puis on nous bassine beaucoup avec des séries, même sur la psychanalyse, hein, comme en thérapie,
il y en a pas qu'il y a,
ce
oui,
genre
oui.
de choses. Donc toutes les versions transnationales de la série en thérapie. Voilà, donc il y a beaucoup hein, d'influence évidemment de Freud et de la psychanalyse sur le cinéma, sur la constitution même des images, par quelqu'un qui analysait lui-même les images.
Le comparse même de Freud dans le grand boom, c'est Cobra.
Oui, c'est son bras armé.
Le sergent Cobra, Mario Cobralecci, hein, interprété par Stallone dans les années 80. Un film pour la Canon, si je me souviens bien, réalisé par Georges Cosmatos, hein, dont on doit aussi l'excellent SS Représailles et évidemment le Rambo 2. Alors, peut-être toucher un peu un mode de cinéma américain d'exploitation qui aime tant les héros et surtout les figures droitières. Hein, il y en a un paquet.
Oui. Alors, je n'ai pas vu SS Représailles. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a vu SS Représailles? On ne juge pas. Non, personne n'ose en fait dire. Oui, Cosmatos, c'est quand même lui qui a transformé aussi ce fameux Rambo, puisque le premier Rambo de Stallone est quand même un grand film sur les traumatismes de la guerre, les vétérans, etc. Rambo 2 devient tout à fait autre chose, c'est un pur actionneur, où on dégomme évidemment, sans parler des Rambo suivants. Et on est en fait dans ce moment où Stallone, qu'on a présenté un peu comme un humaniste à certains moments, se laisse un peu aller là à une espèce de violence extrêmement gratuite dans ses films. On est au cœur des années 80, en effet, au cœur de ces années Reagan, de l'Amérique ultra-libérale, avec une forme de retour au chacun pour soi, très très narcissique comme ça. Et on a quantité de films à l'époque qui vont décrire une société de déclin, absolument. Un monde de vandales cupides, de brutes, de délinquants, un type de criminalité galopant, des bandits sans foi ni loi.
Des satanistes même dans Cobra.
Tout à fait, ouais. Comme si les bandits d'avant avaient été plus nobles et dignes, en fait. C'est assez, assez drôle, évidemment. J'ai revu le trailer, pas le film entier, si tu m'excuseras, mais le trailer pour l'occasion. Je vous donne le pitch. Hein. Depuis plusieurs mois, une mystérieuse série d'assassinats très, très sauvages, sans précédent, dit-on, sont commis dans la ville. La police est à bout de ressources et donc on appelle un lieutenant qui est un lieutenant un peu problématique, hein, c'est ce fameux Marion Cobretti, dit Cobra, qui est un flic de choc, pas de charme, uniquement de choc, qui vient évidemment régler les problèmes à sa manière, c'est-à-dire avec des pulsions un peu meurtrières, une force létale en tout cas. L'idée, c'est qu'il y a un nouveau type de criminalité, donc il faut un nouveau type de flic. La criminalité, c'est une maladie, il est la cure, hein, donc ce remède absolu en mode un peu Terminator. Alors, le contexte du film, c'est que Stallone est le roi d'Hollywood à ce moment-là. Rambo 2, c'est un succès. Rocky 4 sera un succès. On lui laisse tout. Et donc, c'est le moment où il fait ses films peut-être les plus régressifs. Over the Top, Rambo 3 qui arrive et le fameux Cobra. Où il s'autorise tout, y compris, c'est le moment où il est en couple avec Brigitte Nielsen et décide de mettre Brigitte Nielsen au centre des films. Tant pis si c'est pas la meilleure actrice du monde, il l'impose. Donc il impose un style aussi physique et vestimentaire un peu particulier, hein, qui est extrêmement iconique et qu'on retrouve à de nombreux endroits dans ton exposition, qui est évidemment ces grandes lunettes Ray-Ban fumées, ce cure-dent mâchouillé.
Le cure-dent, oui, c'est vrai.
La tenue noire moulante et le pistolet sur lequel est gravé un cobra lui-même, et qui sont des espèces de sursignes d'une survirilité fantasmatique assez dingue. Et évidemment, l'idée de Stallone, c'est de se mettre un peu dans les pas du fameux Dirty Harry, hein, de l'inspecteur Harry, qui est un peu un film de référence pour cette idée de police un peu droitière, de police qui va au choc, qui va au front. Je recommande, hein, c'est un excellent livre qui vient de sortir de Yael Sada, qui s'appelle Vigilante, qui revient un petit peu sur, finalement, de Nixon à Trump, tous ces films avec des justiciers, hein, ces personnages-là, et qui montre très très bien que, finalement, ce Vigilante Movie, il s'est créé sur les ruines du western. On parlait de la mort de Freud pour le western tout à l'heure. Et on n'est pas sur le grand western classique, on est sur le petit western crapoteux de série B, évidemment, qui a toujours existé, et on va actualiser, hein, ces formes de shérif un peu sans foi ni loi. Alors on les voit apparaître dans les années 70, hein, c'est évidemment l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, c'est le Taxi Driver avec Robert De Niro, c'est bien sûr Charles Bronson, c'est déjà un peu plus un cas limite, un justicier dans la ville, mais les années 80 vont en quelque sorte prendre ces motifs-là, ces scénarios-là, ces narrations-là, et vont les vider des dernières questions de dilemmes moraux pour en faire des films extrêmement bourrins, quoi, où il n'y a pas de questions qui se posent et qui sont un peu nanardesques par moments, il faut bien le dire, et qui vont un petit peu disparaître à partir du moment où ces personnages vont être repris dans des choses un peu plus mainstream, sans doute. Ça va être finalement l'avènement du super-héros, le Batman de Tim Burton, le Punisher qui vont arriver, qui vont un petit peu affadir cette idée du personnage vengeur, ce justicier urbain, par rapport à ce que on a pu connaître dans les années 80. Et donc Cobra est sans doute l'exemple un petit peu ultime, en quelque sorte.
Il y a aussi la version française de ce genre de film avec Cross, interprété par Michel Sardou, qui est une version
c'est juste,
mais, de Cobra, mais version
mais tu Roland Giraud, tu fais remonter en moi un Michel truc Sardou. Assez obscur.
C'est un flic qui doit s'associer avec un tueur pour pouvoir aller rechercher une fille qui a été kidnappée par une bande de satanistes qui ressemble un peu à celle de Cobra.
Absolument. Absolument. Oui, on minimise beaucoup trop la carrière cinématographique de Michel Sardou, en fait. Ouais, j'avais oublié cela.
Bah, on va parler un peu peut-être maintenant qu'on a un peu décrit ces deux personnages et leur rapport au cinéma, à celui de l'univers, du multivers. Donc, quel est le lien selon toi entre le multivers et le cinéma? Parce que c'est quelque chose qui est très très présent, de plus en plus en tout cas, chez nos amis de Marvel, quoi.
Oui, bah, je pense en fait que le cinéma, c'est le multivers. Ou en fait, le cinéma, c'est une machine à multivers, en quelque sorte. Alors en effet, hein, le multivers, c'est au centre de ton exposition. On en parle beaucoup dans la culture populaire. On se pose beaucoup de questions autour de ce concept hein, qui, on ne va pas faire le décrire scientifiquement, j'en serais bien incapable, mais qui est cette idée en tout cas que finalement, au-delà de l'univers observable qui est le nôtre, d'autres univers pourraient également exister, devraient même exister si on veut pouvoir essayer de comprendre l'univers tel qu'on... On n'arrive pas tout à fait à le comprendre encore aujourd'hui. Il faudrait finalement réussir à penser qu'il existe toute une série de scénarios possibles hein, de l'univers, du réel dont nous n'avons finalement accès qu'à une fraction, qu'il y aurait des univers bulles un peu indépendants qui naissent en permanence. Enfin, il y a une quantité de théories autour de ce multivers, des univers parallèles. Elles suggèrent toutes finalement que l'espace et le temps que nous connaissons ne sont pas finalement la seule et unique réalité, puisque nos théories actuelles ne suffisent pas à expliquer l'univers. Alors, c'est évidemment lié aux révolutions de la physique quantique et de l'astrophysique contemporaine, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que des auteurs, finalement, des artistes, des écrivains, des poètes, ont eu l'intuition de ça très tôt, avant même que, finalement, ça devienne un sujet de science, surtout du milieu du XXe siècle. Et on retrouve hein, chez Anaximandre, hein, où... quelques siècles, je crois que c'est 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, déjà, hein, des réflexions sur le multivers, bien avant les fameuses théories du monde multiple hein, de Hugues Everett de 1950, qu'on cite beaucoup. Edgar Allan Poe aussi a fait des poèmes, même en prose, sur l'idée de succession illimitée d'univers. Ça devient, au fond, au XXe siècle, très très courant d'avoir dans la science-fiction ce type de référence. René Barjavel, hein, pour parler d'écrivains... français là, dans le Voyageur imprudent finalement va creuser la question, c'est lui-même qui va mettre un petit peu en évidence hein, vous savez, ce qu'on appelle le fameux paradoxe de grand-père, qui est en fait un paradoxe de grand-mère dans son roman Le Voyageur imprudent, hein, qui dit que voilà, si le voyage dans le temps existe et si je retourne tuer mon grand-père, comment ça se fait que j'existe quand même? Et donc ça suppose évidemment que toute action développe un univers parallèle en fait. Ça résout ce paradoxe-là. On va trouver ça dans beaucoup, ça c'est 1943 chez Barjavel, mais les années 40 et 50 vont être très riches en ce type d'univers et de monde. Voilà. Et puis c'est des auteurs célèbres, Philippe K. Dick, hein, vous connaissez évidemment le maître du Haut Château, hein, qui décrit un monde possible où c'est l'Allemagne, l'Italie et le Japon qui ont remporté la Deuxième Guerre mondiale, chez Terry Pratchett. Et puis quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, dans les comics, c'est évidemment de science-fiction, chez Marvel, chez DC, on va très tôt développer des intrigues extrêmement complexes sur multivers. Chez DC Comics, c'est tellement complexe qu'au milieu des années 80, en 85, ils ne comprennent plus rien à ce qu'ils ont fait. Il y a tellement de terres multiples, de versions de Superman, de versions de Batman, de Wonder Woman, qui décident finalement d'écraser tout. Ils font une espèce de grand comics hein, où on prend toutes les terres, toutes les planètes, toutes les galaxies, on écrase parce qu'on s'en sort plus. On ne sait plus très bien si on écrit le Superman de la Terre 332 ou celui de la Terre 52, etc. Et puis, le concept étant tellement finalement riche et opérateur, ils vont le relancer quelques années plus tard, dans les années 2000.
Détruire pour mieux reconstruire.
Chez Marvel aussi, ils ont un dispositif qui est très chouette, qui s'appelle le What If, où c'est « et si ». Ils n'arrêtent pas d'imaginer tiens, le monde si on change une petite condition. Ils le font à partir de super-héros, mais on voit que l'exercice peut être là-dessus. Beaucoup de séries télé ont travaillé là-dessus, hein, les Buffy contre les vampires, les Doctor Who, les Stargate, les Fringe, etc. Et au cinéma, on a beaucoup de choses ces temps-ci. Certains d'entre vous ont peut-être vu le Everything, Everywhere, All at Once.
Oui, j'ai vu moi.
Alors, moi, je n'ai pas encore vu. Il paraît que c'est vraiment The One de Jet Li, mais retravaillé au goût du jour.
Oui, avec des mains en forme de saucisse en plus.
Écoute, c'est l'argument indépassable pour courir voir le film. Voilà, certains ont vu Coraline, ce film d'animation dans Excelix, super flippant. Les Sliding Doors, hein, pile ou face en français, avec Gwyneth Paltrow, le Star Trek de J.J. Abrams, Source Code, etc. Il y a même un film belge, en fait, qui est dans le multivers. Mais oui, c'est le Jaco Vandermal qui nous a fait ça avec son Mr. Nobody, en 2009, qui est une production américaine avec Jared Leto, où le pitch était pas mal quand même. Hein. C'est que l'idée, c'est que tout le monde est devenu immortel, non pas en 2132, mais en 2092, sauf une personne qui s'appelle Nemo, qui est le dernier mortel sur Terre, qui a 118 ans, qui s'apprête à mourir. Et en fait, on veut absolument recueillir le témoignage de quelqu'un qui a connu le monde avant la quasi-immortalité. Et donc, on lui demande c'est un psychiatre, un psychanalyste qui vient, je ne sais plus, qui vient lui demander de raconter ses souvenirs, ainsi qu'un journaliste. Sauf que ce Nemo explique qu'en fait, avant la naissance, les enfants, c'est un beau concept, se souviennent de tout ce qui va arriver dans leur vie, ou de tout ce qui peut arriver dans leur vie. Et au moment, finalement, de leur conception, des anges de l'oubli effacent leur mémoire, sauf que Nemo, il a été oublié par les anges de l'oubli. Et donc, il se souvient, non pas seulement de sa vie, mais de toutes les vies qu'il aurait pu vivre. Et donc le film montre des différentes réalités alternatives en fait, de son existence. Comme le film était limité économiquement, Jacob Enderman l'a poursuivi, même il a publié un roman qui tirait de son scénario et qui développe un peu plus les choses. Et puis ce qu'on connaît bien évidemment ces derniers temps, c'est tous les films de super-héros, les Spider-Man, Into the Spider-Verse, les Avengers Endgame, le fameux Doctor Strange in the Multiverse of Madness hein, qui vient de sortir. Voilà, donc c'est un thème très très prégnant dans l'audiovisuel. Et finalement, pourquoi? Sans doute, c'est mon idée, c'est que le cinéma, dans le fond, c'est aussi une machine à multivers. Parce que vous êtes dans un endroit, sur un canapé, un fauteuil, et puis soudain, il y a une très puissante stimulation audiovisuelle qui va vous emmener dans un tout autre lieu. Vous allez vous retrouver en un clin d'œil, tout en étant dans une salle de cinéma liégeoise, par exemple, à Tokyo, sur la Lune, dans le fond de l'espace. À Rome autour de la naissance de Jésus-Christ, etc., etc. Vous allez tout d'un coup vous identifier un regard qui n'est pas le vôtre, hein, la fameuse caméra. Vous allez percevoir plus, vous avoir des points de vue que vous ne pourriez jamais avoir vous-même, vous avoir des points d'écoute qui sont impossibles dans votre vie quotidienne. Vous allez être affublé finalement d'un nouveau corps magique qui vous emmène ailleurs. Vous allez vivre d'autres vies avec de nouveaux sentiments, tristesse, colère, tendresse, excitation sexuelle, que sais-je, face à des situations qui ne sont même pas les vôtres, que vous vivez par procuration, en quelque sorte. Et donc, c'est une grande expérience d'ouverture qui vous entraîne à chaque fois vers d'autres mondes, dans ce dispositif très particulier, hein, la salle obscure, l'éclairage, la lumière, ce côté très haptique de la lumière que vous regardez. Vous oubliez même votre propre corps, hein, ce qui fait qu'à la fin du film, quand vous reprenez conscience, quand vous revenez dans votre univers, bah en fait, vous êtes un petit peu engourdi, vous avez un petit peu mal.
Vous avez pissé, surtout.
Vous avez peut-être besoin de vous rendre aux toilettes, effectivement. J'essayais d'être moins trivial, Benjamin, mais c'était un tort. Et donc, le corps se rappelle à vous parce que vous avez vécu dans un autre corps, dans un autre monde, pendant 1h30, 2h, 2h30, un certain moment. Donc, c'est vraiment une grande expérience d'expropriation de vous. Et dans le fond, le cinéma a toujours été ça, même dans le pré-cinéma, si on se rappelle hein, des premières tentatives de Lanterne Magique, de la Fantasmagorie, de Robertson autour de la Révolution française qui faisait des spectacles, c'était des spectacles notamment pour communiquer avec les morts. C'était déjà ouvrir une porte sur un autre monde, sur d'autres mondes. Et puis le montage même du cinéma, c'est une expérience qui vous bouleverse à chaque fois. Hein, ça, le montage, passer d'un plan à l'autre, c'est ce qui vraiment plie l'espace-temps. On a un espace-temps, nous, qui est continu, et le cinéma, lui, crée des ellipses, il le plie, il le déplie, et il vous emmène dans d'autres mondes. Donc c'est vraiment, voilà, le multivers, hein, c'est finalement ce que le cinéma permet de créer à travers son dispositif. Et ce qui est intéressant là-dessus aussi, une dernière chose, c'est que René Barjavel, dont je parlais tout à l'heure, qui était ce romancier qui avait commencé à explorer un peu cette idée de multivers, c'est aussi quelqu'un qui, très tôt, en 1944, imagine le cinéma du futur. Un très, très beau petit livre qui s'appelle Écran Total. Il imagine que, dans un moment donné, le cinéma n'aura plus besoin de salles, mais que les images, en fait, elles seront libérées, elles seront déchaînées, elles seront avec nous, elles nous accompagneront dans la rue, en voiture, sous forme d'hologramme. Hein, c'est ce qu'il imagine, une sorte de réalité virtuelle permanente autour de nous. Et voilà, peut-être que si cette bombe atomique n'avait pas explosé, on aurait peut-être un OVNI qui serait effectivement un peu plus performant et avec des hologrammes qui accompagneraient les voilons.
Laissons-leur le bénéfice du doute, hein. C'est jamais ce qui nous prépare. Mais pour parler de Marvel, donc, il y a ce personnage, Stephen Strange, qui est habillé quand même d'une manière assez remarquable, avec un code couleur, qui est le même que celui d'une autre héroïne du grand boom qui est Rosetta. Alors, comment est-ce possible que...
Je ne crois pas.
Comment est-ce possible que Rosetta, donc rouge et bleu, soit habillée de son jogging des mêmes couleurs que Doctor Strange ? Est-ce que tu vois des parallèles entre les...
Oui.
Entre ces personnages ?
Alors, assurément. Il faut développer l'argumentation maintenant. Alors, Doctor Strange, hein, pour rappel, personnage créé en 63 par Stan Lee et Steve Ditko, surtout Steve Ditko à vrai dire, hein, et qui est un personnage qui va accompagner le psychédélisme. C'est donc un personnage un peu différent, il faut s'en rappeler, hein, à la base c'était un chirurgien extrêmement riche, prétentieux, arrogant, enfin chirurgien, et il fait un accident terrible, hein, de voiture, il perd l'utilisation de ses mains, et donc il va, pour essayer de les retrouver, s'ouvrir, aller retrouver un ancien, comme ça, on te dit qu'il a des pouvoirs magiques, et en fait ce qu'il va surtout découvrir, c'est le monde mystique, il va devenir une espèce de sorcier suprême, affublé de grands pouvoirs, mais qui est aussi destiné à recevoir la mission de protéger notre monde contre les autres mondes, et des mondes obscurs, démoniaques, hein, qui menacent perpétuellement notre univers, sans que nous ne sachions, nous, pauvres petits humains, jamais rien. Et donc, heureusement, on a ce sorcier qui va, en fait, dans le multivers et qui ne cesse de passer d'un univers à l'autre pour essayer de sauver la Terre et finalement, souvent, de guérir même des mondes avec bon, voilà, cette fameuse cape dont tu as parlé, qui est une cape de lévitation et puis cette espèce d'amulette au pouvoir divinatoire qui est l'œil d'Agamotto. Donc, c'est un magicien extrêmement puissant et... Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce personnage. Hein. Évidemment, on retrouve le schéma du personnage handicapé qui sublime en quelque sorte son corps ici de manière mystique, hein, avec des projections astrales, ce genre de choses. Il y a d'autres, hein, super-héros handicapés, Daredevil, Professeur Xavier, etc. Mais on a ici vraiment un personnage qui avait créé d'autres dimensions, à se battre dans d'autres dimensions, à visiter d'autres dimensions. Et c'est précisément ça qui est intéressant dans cette série et qui est rendu pas trop mal dans les films, c'est que c'est l'occasion de pouvoir mettre en place et visiter des univers complètement déjantés. Et il y a une très belle séquence dans le film de Sam Raimi d'ailleurs où on le voit traverser comme ça toute une série d'univers absolument incroyables, indescriptibles même. Et donc c'est un défi permanent un peu à l'imagination, ce personnage. C'est peut-être quelqu'un à qui il faudrait confier toutes les reconversions économiques de toutes les régions désastrées du monde. Il pourrait imaginer d'autres mondes à la place. Rosetta, ne ratez pas l'articulation, hein, entre les deux. Rosetta, dans le fond, elle aussi, elle est moins mystique, mais elle a super plusieurs pouvoirs. Elle a en tout cas elle-même une sorte de multiverse incarné, puisque elle est toute une série de choses à la fois. Rosetta, c'est évidemment d'abord, hein, l'incarnation très, très emblématique, hein, une sorte de cristallisation comme ça d'un ensemble de jeunes personnes lambda, nées dans une région dévastée, évidemment, hein, serein ou tout autre type de région industrielle abandonnée, en grande difficulté, précarisée, sans espoir donné par l'entourage qu'elle fréquente, sans que l'école ait réussi non plus à jouer le rôle de courte échelle qu'elle devrait pouvoir jouer. Elle est quasi au fond du trou. D'ailleurs, sa grande obsession, c'est de ne pas rester au fond du trou. Elle le dit souvent. Mais elle est animée d'une pulsion, hein, cette espèce de volonté d'exister, de vivre, de revendiquer une dignité, d'affronter un monde qui est filmé comme une série d'obstacles, hein, dans le film qui est très, très physique, très ancré. Et Rosetta, elle est présentée clairement comme une espèce de warrior, hein, de guerrière du quotidien finalement. C'est quelqu'un qui ne se résigne pas à disparaître alors que tout lui demande de disparaître dans le fond. Et donc c'est une créature sociale, un organisme vivant et survivant avec cette pulsion. Mais Rosetta, en même temps, c'est aussi à côté d'une créature sociale, une créature filmique, j'ai envie de dire, hein, c'est le résultat du néoréalisme italien, c'est la fille de Sica, c'est la fille de Rossellini, c'est aussi la fille du naturalisme à la Bresson, du réalisme social belge à Paul Meyer, c'est même une fille ou un enfant de John Cassavetes aussi dans le côté physique, évidemment, de ce qu'elle incarne. Et son corps, c'est vraiment un corps de cinéma, filmé de dos ou en gros plan, sans phare, dans une énergie brute, avec beaucoup de crudité, qui renvoie à cette pulsion d'existence. C'est un produit de narration, mais aussi un produit de mise en scène, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment l'héritage de toute une filiation, hein, cinématographique qui se reformule, enfin, qui reformule le réel, je dirais, à l'aune du naturalisme. Rosetta, c'est encore, évidemment, Cette actrice, hein, Émilie Dequesne, rôle révélation finalement, qui a fait une trentaine de films depuis, visage très dur qui a beaucoup changé, qui nous rappelle que les acteurs sont aussi des métamorphes, en quelque sorte, hein, que les acteurs et les actrices sont des mutants, ils changent de forme. Rosetta, c'est encore le nom du film, et quand on a vu le film, on ne peut pas imaginer un autre titre à ce film, bien sûr, puisque le film est contenu dans ce personnage, film qui, on s'en souvient, amène une palme d'or à ces fameux cinéastes liégeois, les frères Dardenne, qui vont faire reconnaître, du coup, hein, le cinéma belge ou le cinéma wallon dans l'ensemble du monde entier, de notre monde en tout cas. Et c'est un film qui réécrit, hein, l'histoire du cinéma de notre pays et de notre région. Et puis Rosetta, encore, c'est le nom, on s'en souvient aussi, d'un plan politique, social. Le fameux plan Rosetta, baptisé de manière très opportune, évidemment, en raison de la célébrité du film. Pérenniser aujourd'hui, hein, ces fameuses conventions de premier emploi qui étaient censées favoriser l'engagement des jeunes de moins de 26 ans. Et donc on voit que Rosetta, c'est beaucoup de choses. Elle est même code couleur du Dr. Strange. Et finalement, elle a des pouvoirs tout à fait aussi étonnants. C'est-à-dire, on a rarement vu en tout cas un personnage de fiction qui est capable d'être autant de choses à la fois et de déborder finalement le film de fiction pour avoir une espèce d'impact qu'on peut mesurer, certes, hein, mais dans le réel, et de devenir, hein, aussi un des symboles et une des mascottes, mmh, forcément, de la Wallonie que tu imagines ici.
Tout à fait. Et donc, moi, je voudrais parler un peu aussi des films d'anticipation, celles, ouais, qui se rapprochent un peu de cette Wallonie du futur de 2132. Est-ce que tu vois un peu des films d'anticipation qui pourraient un peu,
oui,
faire un lien, par exemple?
Tu m'as demandé de penser à ça. Moi, il y avait directement une saga, en fait, entière qui m'est venue à l'esprit. C'est la saga Mad Max, lancée par George Miller en 79, et dont on trouve quelques échos dans l'exposition. On s'en souvient un peu de Mad Max, hein. Les grandes nations sont entrées en guerre pour le pétrole. Exaspérées par la crise énergétique, les populations se révoltent.
Ça en rappelle quelque chose.
Les nations essaient de maintenir un semblant d'ordre, comme on peut, tandis que des bandes de délinquants sillonnent les routes. Et donc, évidemment, les crises de l'énergie, les problèmes de chauffage, de l'hiver, dont on n'arrête pas de nous parler là maintenant, dans les maisons si peu isolées de la Wallonie, ça parle. Mais ça parle aussi sur la crise, fameuse crise climatique, hein, puisque on a entendu beaucoup cet été les spécialistes de la faune et surtout de la flore qui disaient à quel point le paysage wallon n'allait pas s'adapter en fait aux nouvelles conditions de chaleur, et donc on n'aurait pas des palmiers demain, mais allait tout simplement disparaître, puisque la manière dont on a végétalisé la Wallonie, surtout avec des conifères, avec des sapins, de manière très artificielle finalement, ont complètement appauvri les sols, et donc la sécheresse vont faire que non seulement ces choses vont disparaître très vite, mais surtout que sur les sols il n'y aura plus rien. Et donc peut-être que cette Wallonie du futur va très vite ressembler au paysage désertique australien de Mad Max, sillonné par Mel Gibson et ses différents fous du volant. Et puis, c'est vrai aussi que dans ce Mad Max, cette folie autour du kérosène, de l'essence, d'une forme de virilité bizarrement placée dans le fait de faire flamber les choses, on la retrouve un peu aussi dans des débats qu'on pourrait... On entend aujourd'hui qu'on pourrait extrapoler et imaginer, évidemment, sur cette espèce de mythologie, hein, très très western comme ça, hein, sur l'idée de faire brûler du pétrole, du kérosène, de faire de la fumée, du bruit, quelque chose qui irait contre, en tout cas, ces voitures propres et silencieuses, hein, qui seraient le moteur. Il faut dire aussi qu'on est en Wallonie quand même la terre du Wallaroo trafiqué qui pollue plus que le 18 tonnes. Et donc on sent bien quelque chose qui pourrait complètement s'ancrer dans cet univers.
On enlève la pastille, comme on dit, de Wallaroo, pour augmenter la vitesse. Un autre film, moi, qui m'a beaucoup inspiré, c'est Phase 4. Je ne sais pas si tu connais ce film-là.
Oui.
Pour l'aspect scientifique, un peu du laboratoire, etc. Et du fait que l'humanité, suite à une catastrophe, va muter aussi, avec ses fourmis.
Oui, bah, les mutations, bah, alors, elles sont tout à fait au centre de ton exposition, aussi, à ces fameuses mutations. Il y a aussi, hein, bah, évidemment... Dans ces grands films d'anticipation qui nous ont marqués, certains commencent à prendre des reliefs un peu inquiétants. Et évidemment, on pense aussi au Soleil Vert de Richard Fleischer.
Qui est ressorti dernièrement d'ailleurs au cinéma dans une version remasterisée, je pense.
Oui, enfin, absolument, puisque l'histoire du film est censée se situer en 2022.
C'est le bon moment.
Et donc on imagine un monde, hein, qui souffre de surpopulation et dans lequel la température ne redescend plus jamais en dessous de 32 degrés.
Effectivement.
Là, ça glace.
Bah, petit moment de silence pour laisser durer le suspense de la catastrophe. D'autres figures aussi marquantes dans cette exposition du Grand Boom, c'est les figures dans le... Bon, on a vu la pièce tout à l'heure à l'étage, qui est celle du musée du, du passé et du futur, avec quelques grandes figures de la pop culture des années 50, de l'après-guerre, dont Elvis. Alors on sait que Elvis, comme les Beatles, a joué dans des films. Est-ce qu'il y a des films... Enfin, Elvis et le cinéma, ça raconte quoi selon toi?
Ah, ça raconte des choses incroyables. Alors Elvis, depuis très peu, a maintenant un biopic, en quelque sorte, à la hauteur de la rupture hein, qu'il a pu incarner. Hein. C'est le fameux film de Baz Luhrmann, qui est baroque, qui montre cette folie au cœur du XXe siècle, qui a des séquences incroyables de mélange de gospel et de rhythm and blues pour montrer finalement comment le rock and roll s'est mis en place, comment les cultures blanches et noires se sont mélangées.
Et un montage digne du multiverse du plus bel effet.
Et un montage, en effet, qui fait trembler les corps des spectateurs. Hein. Je pense qu'en effet, c'est cette fameuse séquence notamment hein, de révélation entre le gospel et le rhythm and blues, entre une sexualité et le côté sacré de la manifestation est absolument incroyable et donne vraiment le tourné et le vertige. Donc on a ça. C'est pas mal. Parce que sinon, on a Elvis lui-même au cinéma et c'est pas du niveau. Hein, Elvis au cinéma, c'est quand même une trentaine de films, tous assez mauvais. Mais avec des kitscheries magnifiques, le Rock du bagne, 57, Bagarre au King Creole, 58. Moi, j'aime beaucoup Blonde, Brune et Rousse, en 63. L'Idole d'Acapulco, 63. Et tous ces films, il faut les voir en français, puisque Elvis est en plus doublé par Michel Roux, au lobby, qui est la voix de Tony Curtis.
Ah oui,
mais Elvis, qui a la voix de Michel Roux, c'est absolument délicieux. Mais c'est évidemment des films qui tuent hein, le mythe rock'n'roll d'Elvis et qui l'entraîne vers l'espèce d'icône pop, hein, cheap, dont finalement certains peuvent raffoler aussi. Ouais. Donc ce Elvis cinématographique-là est un peu triste, il faut bien le dire.
Les années 50 aussi, mais aussi Jésus.
Oui.
La religion et le cinéma. Alors Jésus, il y a quelques films aussi marquants à travers les époques, je pense.
Oui, alors Jésus, bah
c'est grands... un super-héros. Quoi,
oui, parmi les grandes superstars, on est fait un petit peu rétro. Hein, on a Elvis Presley, Marilyn Monroe et Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de Jésus au cinéma? Beaucoup de choses, hein, puisque Jésus est quand même un motif assez aimé du cinéma, une superstar du peplum, en effet. Je crois que en regardant un peu vite comme ça sur des pages internet, on voit quand on cherche casting Jésus, on voit plus d'une cinquantaine de films assez importants quand même. Bon, alors chacun choisira un petit peu son Jésus. Les grands catholiques iront voir évidemment La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese, 1988 hein, déjà quand même. C'est William Dafoe hein, qui
un bon Jésus, lui,
quand même. Jésus. Et là, ça parle de péché, de peur, de culpabilité, de tentation, de souffrance, de chair. On est bien, quoi. Niveau catho, on a ce qu'il faut. Les païens, eux, ils peuvent aller voir La Folle Histoire du Monde de Mel Brooks, avec un Jésus qui fait une apparition très peu christique. Ou bien, on peut prendre l'inverse de La Dernière Tentation du Christ, on peut prendre La Première Tentation du Christ. Ça, c'est un film brésilien de 2019. Je n'ai pas eu la chance de le voir, mais Jésus y est dépeint comme un adolescent indécis concernant sa mission sur Terre et qui consomme de la drogue, a une relation homosexuelle avec le diable et pense que Dieu c'est juste son oncle qui l'emmerde, et la Sainte Vierge n'est pas vraiment épargnée non plus. Donc voilà, ça c'est un autre Jésus, un peu alcoolique, paresseux et goinfre aussi paraît-il. Et puis enfin, ceux qui aiment le cinéma, ils peuvent aller voir plutôt La Vie de Jésus de Bruno Dumont, qui n'a rien à voir avec Jésus, mais c'est juste un bon film, donc voilà, on peut le recommander.
Merci pour ces recommandations sur Jésus. On va petit à petit terminer le podcast, mais il y a quand même un groupe de rock aussi qui revient dans l'exposition, qui est Kiss.
Oui.
Et donc Kiss avait une rencontre improbable au cinéma, enfin en tout cas moi qui m'avait fort marqué, avec l'univers de Scooby-Doo.
Absolument.
Alors, je ne sais pas si tu aimes Scooby-Doo, mais moi je suis un fan absolu. Ouais. Et alors le Scooby-Doo avec Kiss était pour moi une des plus grandes réussites cinématographiques d'animation d'il y a quelques années.
Écoute, c'est ce qu'on appelle un film événement. Voilà. Alors, à chacun d'apprécier maintenant s'il s'agit d'une réussite ou pas, mais c'est un film événement, puisque c'est en effet deux grandes icônes qui se rencontrent, Scooby-Doo et Kiss. Hein, voilà, bon, ça date de 2015, hein, c'est malheureusement sorti directement en vidéo, personne ne comprend pourquoi.
J'attendais devant le cinéma, c'est jamais sorti. Quoi.
Voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça permet de le voir et de le revoir assez facilement. Alors, Scooby-Doo et la belle équipe, hein, c'est-à-dire Fred, Daphné, Vera, Samy, visitent en fait un parc d'attractions qui a été construit entièrement à la gloire de Kiss. Tout va bien, sauf qu'il se retrouve attaqué par une sorcière, évidemment, et donc la bande de Scooby-Doo commence à chercher des indices pour résoudre ce mystère. Alors, c'est un film assez curieux, puisque Scooby-Doo doit quand même beaucoup servir la soupe à Kiss, qui sont présentés comme des méga-stars, adulés de tous, hein, qui ont aussi des super-pouvoirs, qui n'ont peut-être pas forcément dans la vie réelle, mais dans ce multivers animé, ils les ont. Ils sont forts en mode Super Sensei, hein, ils ont des positions, etc. Et puis, un peu comme dans Dragon Ball, ils jettent des lasers, leur guitare, etc. Et donc, les héros de Hanna-Barbera, hein, Scooby-Doo et Sammy, sont un petit peu perdus, d'autant qu'il y a un mélange de dessin 2D, 3D qui est un peu curieux, surtout que Scooby-Doo, depuis toujours, c'est la 2D et c'est la latéralité. On court à gauche, à droite, hein, les fantômes poursuivent, on s'en va au bord gauche de l'image, et puis on fuit de l'autre côté quand il y a plus de fantômes qui arrivent hors champ. Ici, il y a une 3D qui est un peu étonnante et qui dénote un petit peu, sans doute. Mais on voit bien en tout cas que les personnages de Kiss, l'orchestre de Kiss, hein, le groupe Kiss, a vachement été à la commande, hein, puisque le film est en fait censé fêter les 40 ans du groupe. Voilà. Donc, il y a des groupes de rock qui, pour leurs 40 ans, font des tournées, d'autres qui font des albums. Eux, ils ont fait un dessin animé avec Scooby-Doo, et ça en dit sans doute long. Mais dans le fond, ils ont une proximité. Hein. Scooby-Doo est créé en 69, Kiss en 73, parcours parallèle depuis. Alors, c'est vrai que Kiss a changé plusieurs fois de formation, a abandonné les maquillages, puis ça dit que c'était pas une bonne idée.
Non, ça c'était pas une bonne idée.
Ils faisaient vendre, ont remis des maquillages, mais ils avaient des problèmes de peau, donc ils ont arrêté, ils ont enlevé les maquillages, ainsi de suite. En fait, chaque fois qu'ils étaient un peu dans la dèche, ils ont remis des maquillages. Chez Scooby-Doo, c'est beaucoup plus stable. Hein. Voilà. Il y a quand même une très très bonne scène, c'est quand Sammy et Scooby portent eux-mêmes les maquillages de Kiss et arrivent, non, Scooby-Doo et Sammy, hein, et eux-mêmes avec le maquillage de Kiss arrivent à avoir l'air plus intelligent ou moins bête que les musiciens de Kiss. Et ça, c'est quand même un exploit tout à fait notable. Mais dans le fond, c'est deux icônes américaines qui cherchent un peu le même public. Hein, qui c'était déjà le champion des comics et des produits dérivés et qui visait beaucoup quand même la préadolescence finalement dans leur public. Et Scooby-Doo est aussi une série des grands enfants, en quelque sorte, des préadolescents, où il y avait toute une tradition d'inviter des groupes de rock chez eux. Donc un jour, hein, fatalement, il fallait bien que Kiss et Scooby-Doo s'en rencontrent.
Eh bien, on va terminer ce podcast avec peut-être une dernière question concernant d'autres thèmes cinématographiques que tu as peut-être vu dans ce grand boom, donc oui, qui se termine aujourd'hui et donc dont le portail va se refermer à tout jamais.
Oui, c'est une chose pour nous aider à continuer à rêver après ce grand boom, c'est qu'il y a évidemment, hein, au cœur du grand boom, ben, cette explosion atomique, cette radioactivité qui est importante, qui attire des extraterrestres, des choses étonnantes, il y a des mutations. Mais ce dont on n'a peut-être pas pris tout à fait la mesure, c'est que forcément les cinéastes de 2132, pour ceux qui arriveront à trouver le matériel qui reste, éventuellement s'ils tournent des choses, pour ne pas se contenter de ce qu'ils vont trouver sur le dernier répertoire de Ovio, retrouvés à l'époque, seront des mutants, seront peut-être des cinéastes avec 3 yeux, 5 yeux, ils verront peut-être les couleurs différemment de nous, des formes différentes, et donc vont faire des films totalement différents aussi. Peut-être que la forme même de ces films sera un petit peu indescriptible, hein, comme finalement les fameuses créatures dans The Thing de Carpenter, qui sont comme ça une espèce de chair agglutinée dont on n'arrive pas très bien. On voit des référents, mais on ne sait jamais très bien ce qu'on voit face à nous. Peut-être que ces films-là seront aussi indescriptibles que ces créatures-là. Et ça, ça fait rêver, ce sera magnifique, évidemment.
En tout cas, merci Dick d'être venu sur ce podcast. Donc, Le Grand Boom, l'épisode 1 est toujours trouvable avec Philippe Marchevski. Donc toi, l'épisode 2 est avec toi. Et puis ben, voilà, Le Grand Boom se referme, le portail se referme. Et merci encore à la Galerie Flux pour l'accueil pendant ces 3 mois et à tous ceux qui sont venus et qui ont animé aussi cet événement qui dépassait finalement un peu les arts plastiques, si on peut dire, puisqu'on a finalement raconté, j'espère, autant d'univers, de folklore et de nouvelles choses aussi que j'ai appris en vous voyant. Voilà, merci à tous et à toutes et à bientôt. Donc.
Et merci Benjamin de nous avoir fait autant voyager.
Merci.